Bonjour à toutes et bienvenue auditrices et auditeurs. Vous venez d'atterrir dans l'émission Bancale qui donne aujourd'hui carte blanche aux animatrices de Canal B. Nous sommes dimanche 8 mars, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre. Bienvenue dans notre réveillon féministe. Ouais. Peut-être avez-vous l'impression, à l'écoute de ce générique si moderne, de vous être téléporté dans les années 80, comme je vous comprends. Et peut-être que l'état des droits des femmes dans le monde vous fait également douter. 1986, 2026, 1986, 2026. En tout cas, je vous confirme que nous sommes bien en 2026 et je vous confirme également que la situation des femmes dans le monde est plus que déplorable. Le 8 mars, c'est un peu comme la fin ou le début de l'année pour les luttes féministes et des minorités de genre. C'est le moment où l'on fait le point et cet après-midi, on vous propose de passer ce moment ensemble. Alors évidemment, il n'y a pas de quoi faire péter le champagne au vu des actus, mais il y a largement de quoi faire 1h30 de radio. Peut-être que vous êtes en voiture, qui sait, à vélo, ou soyons folles, peut-être que vous êtes en after et que vous écoutez Canal B, pourquoi pas. Eh bien, on va passer dans la nouvelle année de lutte ensemble, en revenant sur celle qui vient de passer. Et pour cela, évidemment, je ne suis pas seule. Hello, autour de la table.
Bonjour Nina.
Salut Nina.
Autour de cette table, dans ce studio, nous avons non pas une, non pas deux, non pas trois, mais bien 8 ou 9 animatrices, 8 ou 9 voix de Canal B, je ne sais plus. Et pour que nos auditeurs et auditrices sachent qui est qui, vous toutes autour de cette table, je vais vous demander de vous présenter. Et puisque nous allons parler de lutte, de grève, de sexisme évidemment pendant les 90 minutes qui suivent, je vais vous demander de nous dire si nous étions en train de faire la révolution, si nous étions en train de constituer un nouveau gouvernement ou peut-être un comité révolutionnaire féministe, quel rôle aimeriez-vous y tenir ? Est-ce que vous seriez ministre de la culture, ministre du travail, ministre de la famille ? Voudriez-vous créer un nouveau ministère ? Tout est possible. Alors, on va commencer avec... Qui es-tu ?
Avec qui es-tu ? Avec Audrey. Audrey, qui présente le Freak Show, qui fait une pause pendant un an, mais rassurez-vous, je reviendrai. Et puis, si je devais avoir un ministère, eh bien, écoute, puisque tu nous as pas laissé trop de temps... Je pense que je prendrais le ministère du 1000e degré ou du 3e degré pour qu'on puisse débattre sans fin au gouvernement le mercredi sur peut-on rire de tout. Et du coup, ça nous ferait moins chier le mercredi parce qu'on les suit quand on est en RTT.
Le ministère
les femmes.
De l'humour ou du 1000e degré de l'humour, alors.
Exactement.
C'est parti.
Ouais.
Et à ta gauche. Qui avons-nous autour de la table ?
Oui, celle qui est toujours trop ou pas assez, moi c'est Anne. Et moi personnellement, je pense que je m'attaquerai au ministère de la transition de fin du capitalisme et des rapports de domination.
Voilà, comme ça c'est dit, c'est fait, c'est rapide.
C'est ça, avec
un plan quinquennal et c'est fini.
Exactement, voilà, avec une petite option aussi sur la joie comme arme de résistance.
Merci. Et à ta gauche ?
Moi c'est Sabrina, je suis dans l'émission Kérosène. Bon, moi je présente pas beaucoup d'habitude, je m'occupe de la technique. Et moi, si je devais choisir un ministère, eh ben, je créerais le ministère de l'aventure.
Ouais. Oula, je m'y attendais pas. Trop bien, le ministère de l'aventure. Trop bien. Eh ben, c'est cool que tu sois au micro aujourd'hui et pas à la technique alors.
Ouais, ça me fait tout bizarre.
Et à ta gauche.
Moi, c'est Manon de l'émission 3 en 1. Donc, pour le coup, je suis pas trop habituée par la technique habituellement. Et du coup, moi, j'ai pas trop d'inspiration, mais je choisirais le ministère des sports.
Oui, c'est ce que je me disais.
Ouais, un peu ma passion, quoi.
Moi, je suis Julie, aussi dans l'émission 3 en 1 avec Manon, et je pense que je créerai le ministère un peu du pétaouchnok pour faire un peu la fête dans cette révolution.
Ouais.
Je vois pas bien ce qui se cache derrière le pétaouchnok, mais c'est super, ça ira avec le ministère de l'aventure probablement. En face de moi, je crois qu'il y a quelqu'un de l'émission Purple Rain.
Oui, Catherine de l'émission Purple Rain. Moi, si je devais créer peut-être un ministère, je créerais celui de « je m'habille comme je veux », en fait. Voilà, là, chez nous, avec nos fringues, nos looks. Il y en a un petit peu marre, même d'entendre de la part d'amis femmes, le « t'as vu comment elle est fringuée, elle l'a bien cherché, donc voilà, habillons-nous comme on a envie. Allez-vous faire un hein, voilà. »
Il est très long ce nom de ministère.
Ouais, mais j'ai pas trouvé plus court.
À la gauche de Kat, il y a Morgane, et moi je suis dans l'émission « Les héroïnes ».
Et alors moi, mon ministère, c'est hyper sexy. C'est le ministère de la ménopause. Pour qu'enfin, on traite les pathologies. Alors, c'est pas une pathologie, mais les états des femmes. Voilà, quand elles ont leurs règles, quand les personnes dotées d'utérus, voilà, et la ménopause, ça concerne des millions de femmes à partir de 45 ans et qu'on les traite bien. C'est mon ministère.
Eh ben, c'est largement suffisant comme explication. Et la dernière personne autour de cette table ?
À gauche, je finis à l'extrême gauche. Je suis Lucie, j'anime Vers des Terres sur Canal B. Et ce serait peut-être un ministère intersectionnel avec celui d'Anne sur l'anticapitalisme. J'aimerais bien être à la tête du ministère du vivant, humain et non humain.
Moi, je suis pour qu'on arrête les idoles, donc je...
Collaborons ?
Collaborons. Non, je dirais plutôt mutualisons, coopérons.
Coopérons, travaillons en partenariat. C'est...
Qui est la secrétaire d'État de qui ?
Je pense qu'on est à part égale et que la collaboration, c'est un mot qu'on essaiera de d'évincer du vocabulaire.
On verra la pause.
Eh bien, c'est super, il y a déjà des plans qui se font sur la comète. On va commencer dans quelques instants, il y aura des chroniques de nos animatrices, une interview de personnalité féministe avec Lucie, un retour sur les actualités de l'année avec les personnes autour de la table, un mini quiz pour vous faire gagner un super lot. Et bien sûr, il y aura des sélections musicales made in Canal B. On est ensemble pour 1h30 sur le 94 FM. Eh ben, ça fait plaisir, merci d'être là et je suis hyper contente pour deux raisons. Je ne me suis pas présentée, moi c'est Nina aussi de l'émission 3 en 1 avec Julie et Manon. Je suis contente pour deux raisons, déjà parce que j'adore cette chanson et je suis hyper contente d'avoir pu la ressortir, notamment en générique d'une émission, c'est un peu abusé mais je l'aime bien. Et surtout, ça fait plaisir de se retrouver entre femmes ici dans le studio, on est pas mal. Et pour y être tous les jours, c'est vrai que ce studio est quand même squatté par pas mal de mecs. Donc bravo à vous et merci d'être là avec nous. Alors pour commencer, une petite question pour nous toutes ici. Revenons à des choses un peu sérieuses. La coordination féministe de Rennes, donc, dont les associations Nous Toutes 35, le planning familial 35, le syndicat solidaire, ont appelé à la grève générale féministe. Et je vous cite un extrait de leur appel. Elles disent « Nous travaillons dans le soin, le lien, l'éducation, l'entretien, l'agriculture ». Partout, nous effectuons le travail indispensable, parfois invisible, trop souvent gratuit, qui fait tenir la société. Nous ne voulons ni d'une assignation forcée, ni d'une dévalorisation des tâches essentielles. Nous arrêter, c'est prouver notre importance, c'est faire pression pour imposer nos revendications. Nous appelons à la grève féministe, une grève générale du travail, qu'il soit rémunéré ou gratuit. Et nous revendiquons donc, entre autres choses, l'augmentation de tous les revenus, des investissements massifs dans les services publics de la santé et du social. Nous revendiquons également l'abolition de toutes les lois racistes et islamophobes. Est-ce que vous faites grève ?
Ouais, c'est facile, c'est un dimanche.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
C'est ça.
Donc c'est plus facile que les jours où on perd un peu de salaire pour celles qui ont un emploi.
Ça peut être la grève du travail domestique.
Exactement, j'allais dire, on ne fait pas de machine. Et puis faites-vous à bouffer tout seul les gosses, merde.
Donc l'idée de la grève cette année pour vous, c'est quoi ? C'est faire juste ce dont vous avez envie ? C'est parler de ces sujets-là avec les gens qui sont autour de vous ? C'est pas parler à votre conjoint si vous êtes dans un couple hétéro ? C'est quoi ?
Moi, j'aimerais qu'elle dure plus longtemps parce qu'un jour sans tâche domestique, ils s'en rendent pas trop compte, et les conjoints et les enfants. Donc si déjà tu es sur une semaine de grève domestique, je pense que ça les impacte plus, ça les fait un peu plus suer.
Après, il y a l'effet dimanche qui fait que ça paraît con et paradoxal comme tout gréviste, mais ça va nous permettre de pouvoir aller dans la rue aussi. Sans perte de thunes, voilà, ce qui nous permet d'acheter Ariel à 16,90€ le paquet. Voilà, du coup, là, on perd pas d'argent, on va dans la rue, on peut tous y aller, en famille notamment.
Et là, je vous ai lu une partie des revendications de la coordination interféministe, enfin féministe. Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent particulièrement pour vous ? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous aimeriez faire grève plus particulièrement ? Ça peut aussi être d'autres choses que ce que nous venons d'évoquer. Lucie, je te vois
hocher de la tête. Je suis à côté de la radio et du journalisme. Je suis dans une asso qui a signé l'appel de nous toutes, qui s'appelle Parents et Féministes, et où on travaille beaucoup sur les questions de parentalités égalitaires au pluriel, et puis de lutte contre les stéréotypes et pour l'égalité entre les petites filles et les petits garçons. Et donc, il y a ce volet-là, moi, qui me parle beaucoup, et où ça me paraît fou que ce soit encore un combat d'amener les pères, en l'occurrence, à plus s'investir dans les parentalités. Et donc, moi, c'est le truc qui me parle.
Ouais, les enfants, pardon, Catherine.
Non, vas-y.
Non, les enfants, juste pour rebondir sur ce que disait Lucie, la parole des enfants, les enfants aux victimes. Moi, ça m'est assez insupportable la façon dont la France les traite. Et c'est ce qui résonnerait le plus.
Je sais plus ce que je voulais dire, du coup.
Je suis désolée.
On parlait de parentalité juste avant avec Lucie.
Ça va me revenir, mais ça sera peut-être plus le bon moment.
Les petits garçons et les petites filles.
Non, voilà. Non, dans les discussions, voilà, qu'on peut aussi avoir avec des copines qui sont encore en 2026 à être fières de dire que leur mec les aide et que moi, mon mec, il repasse et moi, mon mec, il fait la vaisselle. Je trouve ça ahurissant, en fait, que ce soit quelque chose en mode, moi, mon mec, il est bien parce qu'il fait ça, en fait. Enfin, ben, non, c'est juste normal et je comprends pas cette espèce de. Enfin, bref, ça me choque.
Tu veux dire qu'on devrait faire la grève de distribution des bons points au comportement.
Exactement. Moi, mon mec est mieux que le tien, parce que moi, tu comprends, il passe la spiel dimanche, c'est trop bien, en fait. Super.
Moi, je voulais juste rebondir sur le fait de mon mec ou quoi que ce soit, ou ma meuf d'ailleurs, où là, on est quand même rentré, tant mieux, dans une ère où on a enfin plus ces revendications totales. C'est mon mec fait, mon mec, on est seul. Il y a de plus en plus de femmes qui revendiquent aussi le fait de ne pas avoir d'enfants, et ça, on n'en parle pas assez, qu'on a critiqué pendant des années. C'est leur choix. Il y a des femmes qui restent célibataires et c'est pas parce que c'est des vieilles filles et qu'elles ont des chats, à part moi. Mais du coup, non, il y a pas. Voilà, il y a aussi ça qui est très très important, je trouve, en 2026. Là, ça se délie un petit peu dans les médias. Il y a beaucoup de femmes qui choisissent de rester seules. Faut se poser la question pourquoi. Et je pense que c'est ça aussi. Il y a pas de mon mec. C'est bah merde. Bah je fais la grève aussi. Je reste crado. Je serai toute seule. De toute façon, personne le fera à ma place. C'est important.
Tu veux dire que tu es contre cette lettre envoyée par le gouvernement pour enjoindre.
Non, je ne l'ai pas reçue.
On est une bonne partie autour du plateau à ne pas la recevoir. Hein.
Mais je n'ai pas 29 ans.
À avoir un truc qui enjoint donc les femmes à partir de 29 ans à se poser très sérieusement la question de la parentalité, mais on va dire de la maternité. Comment on a appelé ça? Le réarmement démographique.
Le réarmement, évidemment. Déjà rien que le mot est vulgaire.
Et Anne, tu viens de m'offrir une transition parfaite. Ce qui est bien autour de ce plateau aussi, c'est qu'on a des âges différents, on vient d'émissions différentes, mais on a aussi des enfants, pas d'enfants, et des vies différentes. Et juste à côté de moi, il y a Julie et Manon, qui sont probablement les plus jeunes du plateau. Alors moi, j'aimerais bien vous écouter. Pourquoi vous auriez envie de faire la grève? Et on finira sur ces deux prises de parole, si vous voulez, évidemment.
Faire un peu, je sais pas, ce qui nous plaît, arrêter d'avoir un peu cette pression, je sais pas, genre une grève, une pause un peu pendant une journée de tout ce qui peut se passer, toute la pression qu'on peut ressentir depuis qu'on est enfant. Et puis, bah, je sais pas, en tant que jeune femme qui grandit, c'est quelque chose que j'apprends de plus en plus. Donc, faire un peu une pause sur ça, quoi.
Moi, je suis d'accord un peu avec tout le monde. Donc, voilà, faire un peu bah, tout ce qu'on veut aujourd'hui. Enfin, voilà. Donc, 8 mars. Une grève le 8 mars pour faire une pause. Voilà, faire tout ce qu'on veut. Faire tout ce qu'on veut. Ben, merci pour ce tour de chauffe. On va passer à la première rubrique de cette émission. Rapidement, chères auditrices, auditeurs, si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus dans le réveillon féministe de Canal B. Et puisque c'est le réveillon féministe, on va parler des actualités politiques, sociétales, liées aux luttes pour les droits des femmes et minorités de genre, qu'on a vu passer depuis janvier 2025. Donc, on en a vu passer.
Ouais, les choix n'étaient pas simples, mais moi, ma première date, bah, c'est pas une date, en fait. C'est un chiffre, c'est celui du nombre de féminicides perpétués en 2025, soit 167. 167 femmes sont mortes parce que femmes, en 2025 en France, abattues par leur conjoint ou ex-conjoint. Alors souvent, on le sait maintenant, hein, ces femmes, elles avaient porté plainte, elles avaient signalé les violences. Ce chiffre, c'est celui de l'interorga féminicide, lancé en 2023 par, entre autres, Nous Toutes, Act Up Paris, les Dévalideuses, et qui définit comme féminicide le meurtre ou le suicide forcé d'une femme en raison de son genre. Alors le suicide forcé, vous allez peut-être en entendre parler de plus en plus en 2026, c'est celui qui intervient suite à des violences psychologiques, une emprise, un dénigrement continuel. Et la journaliste Michèle Fine décrit le phénomène dans un livre qui est paru fin janvier, Les mots qui tuent, autopsie du suicide forcé, c'est aux éditions Artaud. Et je ne l'ai pas encore lu, mais je pense voilà, qu'en 2026, on va en entendre parler. Alors si on remonte le fil, c'est janvier 2025. Et en janvier 2025, on a célébré les 50 ans de la promulgation de la loi Veil. Ce qui me permet de rappeler que le droit à l'IVG est constamment menacé et qu'il faut toujours rester vigilante. Mi-février, au sein du Parlement européen, des eurodéputés d'extrême droite, tiens, du groupe ECR, auquel appartient Marion Maréchal Le Pen, tiens, ont déployé une banderole anti-IVG dans les couloirs de l'institution. Et puis, il faut le dire et il faut le redire, la constitutionnalisation de l'IVG en France, c'est un peu une mascarade en fait, puisque je le rappelle, les macronistes, Aurore Berger en tête, ont fait modifier le texte, notamment en supprimant le mot « droit » pour le remplacer par le mot « liberté ». Nous avons la liberté d'avorter en France. Seulement, l'État n'est donc pas tenu de mettre tout en œuvre pour l'accès à l'IVG. En outre, Aurore Berger a fait changer un autre mot. Elle a fait supprimer le mot « personne » pour le remplacer par « femme ». Or, si le mot « personne » est inclusif, eh ben, et qu'il inclut notamment les hommes trans, Aurore Berger les a exclus, elle. Mais on connaît sa transphobie. Pour une ministre chargée de la lutte contre les discriminations, je trouve que ça craint un peu. Ma dernière date en janvier, avant de donner la parole à Anne pour passer au mois de mars, c'est une condamnation. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France pour avoir prononcé un divorce pour faute au tort exclusif d'une femme au motif qu'elle refusait des relations sexuelles avec son mari. C'est le fameux devoir conjugal de Napoléon en 1804. Et vous avez peut-être entendu parler là ces derniers jours du fait qu'on l'ait enfin supprimé. Et c'est peut-être lié à cette condamnation. Je crois qu'on fait un bond. Il n'y a rien en février d'identifier.
C'est aussi entre fin février et début mars que paraissent aux éditions aux éditions Exemplaires l'album BD Peur de mourir mais flemme de vivre de la géniale Salomé Laoche. C'est une compilation de ses strips Instagram qu'elle a publié entre, que je vous dise pas de bêtises, décembre 2022 et octobre 24. Et si je la cite, c'est parce qu'elle fait partie notamment, c'est un exemple parmi des milliers de cette génération aussi de femmes qui questionnent, qui détournent, décentrent le regard et qui épousent ces contradictions et tout en embrassant le paradoxe du monde actuel.
Est-ce qu'on a des choses entre mars et... on a des choses en avril.
Moi, j'avais envie de vous parler du 80e anniversaire du premier vote des Françaises. Et oui, seulement 80 ans. Le 29 avril 45, à l'occasion des élections municipales, les Françaises, elles ont pu enfin glisser pour la première fois un bulletin de vote dans une urne. Cette élection, elle s'est déroulée un an après que les femmes aient obtenu le droit de vote, le 21 avril 44, après des dizaines d'années de lutte politique. Ce premier vote féminin n'a pas directement provoquer de changements dans la condition féminine, par exemple. La première réforme d'importance sur ce sujet n'est votée que 20 ans plus tard. Il s'agit de la modification des statuts matrimoniaux en 65, mettant fin à la soumission de l'épouse à son mari pour de nombreux actes de sa vie quotidienne. Donc en 65, il y a seulement 60 ans, les femmes françaises devaient encore demander à leur mari pour pouvoir travailler ou encore ouvrir un compte. Seulement 60 ans, ça n'est pas si vieux et ça concerne certainement certaines de nos mamans.
Ouais, et puis elles ont pu voter et devenir éligibles aussi. Alors ça a mis un certain temps aussi avant qu'il y ait une certaine parité. En avril, cette année aussi, on a eu une belle réjouissance. C'est la réhabilitation de celles qui avaient été condamnées avant la dépénalisation de la loi Veil, donc avant 75. La proposition de loi de la sénatrice Laurence Rossignol, soutenue par la Fondation des Femmes, a été adoptée à l'unanimité. On estime que près de 12 000 personnes ont été condamnées entre 1870 et 1975. Alors, pour vous faire une idée de ce que vivaient celles qui avortaient avant 75, je vous invite vivement à les regarder. Il suffit d'écouter les femmes. C'est l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, qui a recueilli 179 témoignages inédits. Et France Télévisions en a fait un documentaire bouleversant. Moi, je vous propose d'écouter deux témoignages issus d'un documentaire de Radio France.
On était dans la campagne, dans le Berry, en zone libre. J'avais dit à mon amoureux, eh bien, pour mon anniversaire, on va faire l'amour. Et puis, évidemment, j'ai été enceinte tout de suite. Alors, c'est là que mon père, il m'a fait avorter pour la première fois. Alors, moi, j'ai été condamnée pour ça. À 2 ans de prison avec sursis pour avoir fait un avortement illégal. C'était la démerde, quoi. Ceux qui avaient de la chance et ceux qui avaient de l'argent. Et puis après, quand on s'était débrouillé tout seul, on essayait de dépanner les autres. La solidarité femme, elle a marché quand même là. Je me suis autorisée, si on peut dire, à faire des avortements sur mes propres amis.
En principe, ça se passait le vendredi soir. Pourquoi le vendredi soir ? Parce qu'on a, on pouvait avoir samedi et dimanche pour saigner, et le lundi matin, elle repartait travailler. C'était atroce. Je vous rappelle que c'était la cause de mortalité la plus importante pour les femmes entre 18 et 50 ans. On avait peur de deux choses. On avait un peu peur des flics, c'est vrai, et on avait aussi un peu peur qu'il nous arrive quelque chose avec la femme qu'on avortait. Alors, on s'était organisé. Moi, c'est une autre jeune femme qui m'a appris, qui l'avait appris d'un médecin. Il y a des médecins qui sont mouillés à ce moment-là. Et les mecs de mon immeuble ont été vraiment très, très chouettes, parce que je me souviens qu'ils avaient été acheter aux puces un moteur de frigidaire pour 85 francs. Ils l'ont trafiqué, je ne sais pas, mais le moteur m'a fait un aspirateur Karman extraordinaire. Ce qu'il fallait, c'était ouvrir le col absolument. Et c'était ça qui est le plus difficile, parce qu'un col est extrêmement fermé. Oui. Il y en avait qui connaissaient aussi le curetage. Le curetage à vif. Il y en a quelques-unes qui ont eu droit à des curetages à vif.
Il fallait les punir pour avoir pêché. Tout à fait. On ne le disait pas comme ça, mais vous êtes des salopes.
C'est vrai qu'on partait en guerre, mais on avait quand même très peur. On s'était rendu compte que c'était la désobéissance civique. Mais il fallait être nombreux. Et que on allait réussir que comme ça. Et que les femmes qu'on avortait, il fallait qu'elles puissent témoigner, celles qui voulaient bien, pour pouvoir dire aux journalistes, voilà, dans tel hôpital, tel jour, à telle salle, on va faire un avortement Karman. Et que la femme, en sortant, elle disait, voilà, j'ai avorté. C'était plus tenable. C'est ça, la désobéissance civique. Il y a un moment où c'est plus tenable.
Bon, c'est dur de reprendre la parole sans transition après ce sujet, mais on va peut-être passer au mois d'après.
En mai 2025, mais qui aurait pu prédire ? Gérard Depardieu est condamné lors de son premier procès pour violence sexuelle. Soutenu en haut lieu, voire j'ai envie de dire même en très haut lieu, le monstre sacré du cinéma prend un peu le coup dans l'aile. Et peut-être pour se dire, bah, ne nous contentons pas de désigner les monstres et de les condamner, mais regardons aussi celles et ceux qui les soutiennent, celles et ceux qui permettent que tout ceci fasse système.
Et du coup, juste après, entre mars et juin, donc un peu sur cette période, il y avait aussi la commission d'enquête parlementaire sur les violences commises sur des enfants en milieu scolaire, avec tout le scandale Betarame. On a l'impression que ça fait, moi j'ai l'impression que ça fait des années. Et en fait, c'était il y a à peine quelques mois. Donc avec cette commission qui a vu notamment l'audition de François Bayrou, alors qu'il était encore Premier ministre, et conclusion des députés de la commission. Après 3 mois d'audition, les députés ont estimé, concernant François Bayrou, qu'il avait les moyens d'agir à l'époque, mais qu'il n'a rien fait. Ils ont également préconisé la création d'un fonds d'indemnisation et d'accompagnement des victimes. Une affaire à suivre et qui, moi, personnellement, m'a énormément choquée, notamment en regardant l'audition de François Bayrou, qui est plein de mauvaise foi et de mépris pour les personnes qui lui posent des questions. C'est assez insoutenable à regarder. On va se faire une petite pause musicale sur ce Morgane.
Pour info, Betarame va fermer, par contre.
Oui, Betarame va fermer. C'est une bonne nouvelle, c'est vrai. Voilà, on peut fermer la
culotte. Un petit peu de soleil dans cette émission.
Bah, du soleil, on va peut-être en avoir en musique. C'est un des sons, moi, de 2025, c'est Camion Bip Bip avec Club Ouin Ouin.
Ah bah on peut plus rien dire et puis on peut plus rien faire, alors vas-y, comme ça qu'on habite dans la nouvelle matrice.
On va plus dire bonjour à sa maman, parce que moi en vrai, en fait, je respecte
les femmes. Je comprends pas pourquoi les femmes elles veulent pas sortir avec moi.
Moi je veux bien parler de féminisme, mais à chaque fois c'est la même chose, tu te mets en colère et je me sens toute agressée.
Tu pleurniches, c'est tout ce que tu sais faire. Mais qu'est-ce que j'attends pour te monter en l'air? La couronne sur la tête, tu t'es mis dans un coin. T'es le président du club Ouin Ouin.
Ouin Ouin.
Devant n'importe quoi, pour te noyer dans un verre d'eau, là t'es le roi. Tu bombes le torse devant les copains, mais au fond t'es un bébé, un gros ouin ouin.
Ouin ouin.
S'évapore sur tes joues rouges qui fument, toujours en train de quémander mon hume. T'as toujours eu de la chance, mais ce soir plus aucune. La seule chose que tu chopperas, c'est en rhume.
Ouin, ouin.
Célibataire, destination Loserland, on dirait mon père. Pseudo Alpha, le grand empereur du rien. Gros bébé à maman, veut toujours téter le sein.
Petit polisson, tu n'as pas retenu la leçon.
Non.
Si personne ne veut t'écouter, alors pose-toi.
pleure, tu adores ça.
Et grosse on poilade. Va reprendre grosse poilade. Mais ce son, il date vraiment de 2025, Morgane. J'ai l'impression qu'il était plus vieux.
Ah, peut-être, ouais, peut-être. Non, mais parce qu'elles étaient aux trans. Elles étaient en trans.
En trans aussi.
En trans. Le public était en trans 2025, donc pour moi, ça.
Tu les as vus ?
Mais non, t'as raison, en fait, parce que ouais, c'est plutôt 2024. Non, c'est ce qu'on était en train de se dire avec Kat quand on les a loupés.
Pas vu non plus, ouais.
On va reprendre notre petit tour des actus 2025. Avec le mois de septembre ou alors j'ai raté des mois ?
Non, c'est moi.
Septembre.
Donc j'ai choisi une actualité pour le mois de septembre. Septembre pour la première rentrée des classes avec ce nouveau programme d'EVAR, EVARS, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Ça, c'est à partir du collège. Et donc malgré les entraves réactionnaires, la bonne nouvelle, c'est que la loi elle a été promulguée, poussée, il faut le redire, par des associations féministes. On ne peut que s'en féliciter, puisque l'idée, basiquement, c'est quand même de lutter contre les violences faites aux enfants, de défendre l'égalité filles-garçons, et plus largement de travailler le vivre ensemble, comment est-ce qu'on interagit ensemble, qu'est-ce qu'on fait de ses émotions. Il y a quand même un hic, c'est qu'aujourd'hui, il y a des associations historiques, comme le planning familial, pour ne citer que cet asso, qui sont écartées des écoles, alors qu'elles ont les compétences pour participer à l'application du programme. Ça, c'était sans doute pour rassurer les conservateurs. Autre petit bémol, le privé fait de la résistance. Les écoles privées. À certains endroits, il y a des écoles qui réécrivent le programme, voire qui invitent des acteurs qui ne sont pas agréés pour intervenir auprès des élèves, avec par exemple des petites positions anti-avortement. Donc c'est d'une victoire que je voulais vous parler, mais avec quand même un devoir de vigilance qu'on doit continuer à mener.
Bah merci Lucie pour cet événement en septembre. Et Morgane, je crois que tu as quelque chose pour continuer sur ce mois-ci.
Oui, en septembre, encore une fois, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, condamnée cette fois-ci pour défaillance dans le traitement judiciaire de violences sexuelles à l'égard de mineurs, ce que l'on appelle victimisation secondaire. Ça veut dire, enfin, c'est lorsque les femmes, victimes et plaignantes, subissent des traitements sexistes de la part de la police et de la justice. La France a donc été condamnée pour manquement grave à ses obligations en matière de protection contre les violences sexuelles, qui, je le rappelle, est la grande cause des deux quinquennats qui sont en cours.
Ben, voilà. Heureusement, hein.
Ouais,
parce que si en plus, il n'y avait pas ça...
Ça serait lamentable.
Donc on est multi-récidiviste en fait.
Ah bah ouais, la Cour européenne des droits de l'homme nous tape quand même souvent sur les doigts.
Et face à ces décisions, il y a des choses qui sont faites, on doit répondre, le gouvernement est tenu de faire quelque chose ou c'est juste des condamnations comme ça ?
Alors sur la première que je citais, sur le devoir conjugal, un an après, on arrive à son abolition. Là, sur la victimisation secondaire, je sais que certains avocats, et tu en parlais tout à l'heure, Anne Depardieu, son avocat a été condamné. Enfin, en tout cas, il a été sanctionné. Donc oui, mais c'est tellement lent. On parle, enfin, le devoir conjugal, ça met un an, quoi, avant que voilà, les choses aboutissent. Donc oui, ça a un impact quand même.
Alors, on est déjà en train d'exploser le timing. Alors, je vous propose qu'on prenne deux dernières actus. Anne, t'en avais une ?
On est en quel mois, pardon ?
On est en mois de septembre encore.
Ah non, du octobre, novembre, décembre, mais...
Ok. T'en fais une, Anne, et quelqu'un d'autre va en faire une et on clôture.
Alors, une bonne nouvelle très rapide. Le 27 novembre 2025, l'Afrique du Sud a officiellement déclaré la violence sexiste et le féminicide catastrophe nationale en invoquant la loi de 2002 sur la gestion des catastrophes. On peut enchaîner sur décembre, à moins que vous ayez aussi du novembre.
Non, je voulais juste en novembre, faut rappeler la loi sur le consentement. C'est une modification de la définition pénale du viol pour y intégrer la notion de non-consentement. Je me dis que ça peut faire du bien aux auditoristes d'entendre que cette loi prévoit, ouvrez les guillemets, un consentement libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable, et ne peut pas être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Voilà, et la loi aussi a élargi la définition du viol aux actes bucco-anaux.
Solo si es si, hermana, yo sí te creo.
Ouais, ça c'était, je savais pas si on le mettait, c'est la ministre, l'ancienne ministre espagnole Irene Montero, qui était ministre de l'égalité en Espagne et qui, voilà, sur la loi sur le consentement.
Et elle dit quoi, solo si et si, seulement oui, c'est oui.
Je laisse la parole à l'ultra-gauche.
Si, claro.
Elle est beaucoup plus bilingue que moi là-dessus.
Habla espagnol.
Si, claro. J'ai
mucho.
Que si c'est oui, et ben c'est oui. Si c'est non, ben c'est non, en fait.
Et que si c'est pas solo dit si, oui, c'est non.
Pas oui, voilà.
Rien.
On s'est embrouillé là, non?
Bon, si on ne dit rien, qui
elle, elle a dit voilà. Moi je te crois aussi, ce qui est assez important.
Hermana, ma sœur,
qui... ouais. Ouais, bah voilà, exactement. C'est l'inverse de la dame.
C'était quoi déjà?
Non, mais attends, on a quand même. Soyons sérieux. Résumons. Qui ne dit mot ne consent pas.
Exactement. Exactement. Voilà. Contrairement à ce qu'a dit Napoléon Borisian, non, pas du tout, quoi. Ça ne marche pas du tout, ce truc-là.
Et allez, Anne, en 30 secondes, une dernière actu.
Alors, 30 secondes, je vais faire ce que je peux, mais on finit l'année en beauté en décembre 2025, suite aux insultes de Brigitte Macron contre les militantes venues protester contre la tenue du spectacle d'Harry Habitant. Comme un retournement du stigmate, le hashtag « Je suis une sale conne » déferle sur les réseaux sociaux. Et j'ai envie de vous dire qu'à la diversité du champ lexical propre aux injures sexistes, je nous prédis à terme un florilège au choix de jeu. Hashtag « Je suis hystérique », une pauvre folle, une connasse, un boudin, une salope, une mal baisée, une pucelle, une chienne, une salope, une vieille peau. Bref, je vous laisse choisir, mesdames, messieurs.
On refait un tour de table avec chacun son insulte préférée.
Et toi, c'est quoi ton insulte sexiste préférée?
Je suis hystérique. Je crois.
Et ben c'est pas mal de finir sur des insultes. Moi j'aime bien être féministe énervée.
Juste pour dire quand même que Brigitte Macron avait dit un an plus tôt, en novembre 2024, que en parlant de Gisèle Pellico, qu'elle avait un soutien inconditionnel à toutes les femmes qui étaient victimes d'agressions.
Toutes les femmes, sauf les sales connes.
Toutes les femmes de ta vie. Voilà.
Toutes les femmes de ta vie,
on
Brigitte.
On est beaucoup des sales connes.
Et ben merci à toutes pour ce tour d'actu, positive, négative, un peu des deux, de l'année 2025 de lutte féministe. Et tout de suite, on va donner la parole à Kat de l'émission Purple Rain, qui va nous parler peut-être de musique, je suppose.
Tout à fait. Il est malheureusement encore aujourd'hui indispensable de compter pour mettre en avant les discriminations subies par les femmes dans la musique, mais aussi pour tenter de se réjouir, et oui, quand même un peu de temps en temps, des petites avancées au fur et à mesure des années. Dans le dernier rapport HF 2026, ont été étudiés 1019 concerts dans 28 festivals et 711 concerts dans 11 salles, et seulement 24% de femmes sur scène encore aujourd'hui dans les festivals et 33% dans les salles. Et la différence s'accentue évidemment dans les salles à plus grande visibilité, pas dans le bon sens, vous vous en doutez. Globalement, sur les festivals, 45% des groupes programmés sont exclusivement masculins, contre seulement 13% pour les groupes exclusivement féminins. Alors comment imaginer devenir ce qu'on ne voit pas sur scène? Comment se projeter? Comment donner envie aux femmes de monter sur scène sans complexe? Je vois souvent la différence entre nos invités masculins et féminins dans notre émission Purple Rain tous les mercredis. C'est pas pour faire de la pub à l'émission, hein, mais les propos tenus ne sont pas les mêmes concernant la confiance en soi, le temps qu'il a fallu pour se lancer ou encore la légitimité d'être sur scène. Le syndrome de l'imposteur rôde malheureusement exclusivement dans le studio avec nos invitées féminines. Et si je regarde aujourd'hui mon quotidien, mon métier d'attaché de presse dans la musique, je suis en contact avec des journalistes, des programmateurs et programmatrices de radio. Et si je fais le compte, je suis quasiment en contact qu'avec des hommes en presse écrite et en radio seulement 3 femmes en programmation sur les 2 plus grandes radios nationales. Je ne les citerai pas, mais vous avez bien compris lesquelles. Un peu plus de femmes concernant les webzines, un quotidien très masculin donc. Et je ne m'aide pas en défendant des albums de rock. Et oui, le monde de la presse rock est resté majoritairement un terrain masculin. Je n'ose pas faire le calcul entre le nombre de couvertures de magazines rock qu'ont fait Bob Dylan ou encore Bruce Springsteen contre Janis Joplin ou Patti Smith par exemple. Et puis si, tiens, je l'ai fait. J'ai regardé les unes d'un grand magazine de rock français que je ne citerai pas sur toute l'année 2025. En même temps, avec la liste que je vais vous donner, l'identification de ce magazine sera assez simple. Janvier, Bruce Springsteen en une. Février, Timothée Chalamet. Mars, Led Zeppelin. Avril, The Band. Mai, Pink Floyd. Juin, Bono. Juillet, août, Bruce Springsteen, encore lui, hein, on n'avait pas assez parlé de lui avant, je pense. Octobre, David Bowie. Novembre, David Gilmour. Décembre, Dépêche Mode.
Putain, Télé Z, c'est abusé. Hein. Télé Z, c'est
rock'n'folk. Ils abusent.
C'est en 2025.
Non, c'est pas rock'n'folk.
En 2025.
En 2025.
Mais c'est des gens qui sont déjà tous les finis morts.
C'est
pas la peine d'en parler.
Pas une femme en une de ce magazine sur une année complète, hein, donc vous l'avez compris, 12 numéros où il préfère mettre en avant des hommes vieux, blancs, parfois morts et sur qui tout a déjà été dit. Et je ne vous parle pas de leur hors-série où les femmes n'existent pas non plus. Où sont les Unes féminines avec Emily and the Sniffers, En attendant Anna ou encore We at Shoopies Die, je ne les ai pas vues. Dans certaines presses, si, mais pas vraiment dans la presse rock. J'ai également été voir les sessions acoustiques proposées par une grosse radio nationale qui se dit être la radio rock. Sur toute l'année 2025, 25 sessions, une seule session acoustique accordée à un groupe français mené par une femme, hein, donc pas un groupe où il n'y a que des femmes, Ménade. Pourquoi ne pas avoir reçu Gloria, Ella Atone ou encore Alvilda qui ont fait de l'actu en 2025 ? L'année 2025 était l'année des Lambrini Girls, de Wet Leg ou encore de Sprints. Et pourtant, si je regarde les coups de cœur de cette même année d'un grand magazine rock français, encore un autre, sur 71 coups de cœur, 16 groupes sont menés par des femmes, ce qui ne représente que 11%. Concernant les 55 groupes, on peut compter 4 batteuses, 2 guitaristes, une claviériste, une violoniste et 5 choristes. Le milieu rock n'aide donc toujours pas à visibiliser les femmes, et je dis bien le milieu rock, hein, je ne parle pas de toute la presse. Ça vend moins, ça intéresse moins les lecteurs et les lectrices, peut-être, je ne sais pas. Ces musiciennes ont peut-être moins de choses à raconter qui pourraient intéresser tout le monde. Un vrai cercle vicieux, puisque la presse rock met très peu en avant les groupes de rock féminins. Donc, les jeunes musiciennes, comment peuvent-elles se reconnaître et se lancer ? C'est aujourd'hui toujours un acte politique d'être une femme sur scène, apparemment, il faut croire. Et pour finir, on va peut-être écouter un titre de En attendant Anna, Principia, qui est sorti sur leur album Principia en 2023, le même nom. Et voilà, qui pour moi aurait dû faire toutes les couvertures de tous les magazines rock de l'année 2025, enfin 2023.
Merci, Kat. Our bodies in motion.
Merci beaucoup, Kat, pour cette chronique sur l'état de, bah, des couves de certains magazines rock français. Je suis encore sous le choc. C'est quand la prochaine émission en public dans Purple Rain 4? Vous avez une date?
Je sais pas encore.
Au
normalement, enfin, voilà, au printemps. On
Hugo
a l'invité,
Hugo
c'est Kat White.
Le 5 mai,
non, Kat White, une femme.
Ah ouais,
voilà.
D'accord.
Mais on sait pas encore où okay. et quand. Mais c'est prévu.
On regardera ça de très près. Donc ça, c'est ce qui va arriver sur le 94 FM. Et tout de suite, on va revenir sur des choses qui ont déjà eu lieu, qui ont déjà été diffusées dans l'émission Vers des Terres, émission des luttes écologiques que vous pouvez retrouver un vendredi sur 4 à 13h, si je ne me trompe pas. Et Lucie, tu vas donc nous reparler d'une invitée que tu as reçue dans ton émission.
Un auto-coup de cœur que je vous partage. Vers des Terres, c'est une émission que j'anime bénévolement depuis la rentrée, depuis le mois de septembre 2025. Une émission sur l'écologie plutôt un peu, allez, radicale, on va dire. Oui. Oui.
Oh.
Vous êtes
radical.
Je vous sens excitée.
Mais complètement, c'est un cri de
plaisir. On dirait une pub pour les magnums.
C'est un cri de jouissance.
Et bien justement, restons sur le sujet de la jouissance. Au mois de novembre, le sujet c'était les écoféminismes, notamment en compagnie de Myriam Bahafou, cette chercheuse en philosophie féministe, militante écoféministe décoloniale. Elle amène un vent de fraîcheur, je trouve, sur les réflexions féministes. Elle a publié en 2025 un ouvrage intitulé « Héros politique, écoféminisme, désir et révolution », tout un programme. Pour vous donner envie d'aller lire son livre qui secoue, même quand on est féministe, je vous propose de réécouter un passage de son entretien qui est à retrouver dans son intégralité sur canalb.fr à la page « Vers des terres ». Qu'est-ce que j'allais dire? Extrait, voilà.
Être écolo, c'est ouvrir ses trous, donc ça c'est le titre de ce chapitre-là. Ce qui signifie en fait que pour être écolo, encore une fois, quand on comprend que ça n'est pas trier ses déchets, rejeter moins de CO2 dans l'air, etc., c'est plutôt la question de me demander quelle capacité j'ai à m'ouvrir et à comprendre à quel point autrui peut me pénétrer. Et c'est ça en fait l'interdépendance. Parce qu'on parle beaucoup de ce terme d'interdépendance, je trouve, dans l'écoféminisme comme ailleurs. Mais la réelle interdépendance, c'est pas de me sentir connecté à autrui, c'est de voir comment autrui a déjà des liens en moi, qui sont pas forcément des liens souhaités par ailleurs. Par exemple, pour les personnes blanches actuellement, pour la plupart, le lien qu'elles ont entre elles, c'est un passé colonial. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, en fait, est-ce qu'on est dans des entités de « on va se sortir d'eux » ou est-ce qu'on est dans une culpabilité? Ou est-ce qu'on va plutôt se dire « comment ça me pénètre en fait ? Où est-ce que ça a une place en moi ? Qu'est-ce que ça dit de moi ? À quel endroit je veux contester ça ?» Et donc ça, c'est reconnaître en fait ces liens et ces connexions. Et les écoféminismes sont hyper forts à avoir théorisé en fait ces liens d'interdépendance humain et non humain. Et pour ça, pour moi, il faut se comprendre comme un individu non pas monolithique, non pas bouché, non pas imperméable, mais ouvert et pénétré. Et c'est en ça que c'est des politiques queer. Parce que pourquoi, en fait, le patriarcat hétérosexuel a horreur de la pénétration? Parce qu'en fait, ça signifierait que les vrais hommes ne sont pas donc maîtres d'eux, n'ont pas le contrôle absolu sur leur corps, et en fait auraient la possibilité d'avoir laissé une intrusion, en fait, à l'intérieur d'eux. Et c'est ça, moi, qui m'excite. C'est de comment, en fait, la co-constitution de tous les individus en moi, de mes ancêtres, des micro-organismes qui sont à l'intérieur de moi là tout de suite, qui font le travail de digestion de mes cellules, de mes neurones, là, qui sont en train d'activer cette espèce de fougue verbale que je vous livre. En fait, comment tout ça, ça n'est pas moi? Quelle arrogance de dire que tout ça, c'est moi. Bien sûr que non, c'est pas moi, c'est les bouquins que j'ai lus, c'est l'éducation que j'ai eue quand j'étais enfant. C'est en ça que c'est de l'éthique du care, en fait, ces trucs d'interdépendance. Et c'est en ça, pour moi, que c'est écologique. Parce que plus vous reconnaissez à quel point vous êtes liés aux autres, humains et non humains, plus vous faites monde d'une manière qui soit ouverte et propice à la rencontre, plus, en fait, pour moi, vous êtes antifasciste, d'une certaine manière. Et donc, tout ça, c'est un vivre ensemble qui est profondément écologique. Parce qu'il n'y a que, justement, encore une fois, les fascistes pour penser que l'être humain est le nec plus ultra de l'évolution. Ou que l'homme est supérieur biologiquement à la femme. Enfin, vous voyez, pour moi, c'est vraiment tous ces mythes-là qui viennent se réactiver dans notre climat délétère, en fait, écologiquement, et qui vont réaffirmer un exceptionnalisme humain, qui vont réaffirmer la domination de l'espèce humaine sur le reste du monde. Et du coup, c'est pour ça qu'être écolo, c'est ouvrir ses trous, et c'est pour ça que se laisser pénétrer, c'est un impératif écologique. Les personnes qui ont été pénétrées ont beaucoup plus de choses à dire sur le monde, en général, et pas forcément des choses faciles. Et du coup, je mentionne ça avec évidemment tout le sous-texte et l'implicite des personnes qui ont été violées, donc des personnes qui ont subi des agressions sexistes et sexuelles dans leur vie, etc. Et que ça, pour moi, il y a pareil un endroit où en fait il est possible d'en faire quelque chose au-delà du statut de victime et d'en faire une sorte de récit presque révolutionnaire d'une pénétration non voulue mais qui fait de moi un être plus poreux.
Justement, donc avec Aéropolitique, on trouve aussi des éléments de réponse sur la manière de cohabiter avec les oppresseurs, oppresseurs que nous pouvons tous être dans certaines situations, comme, pour vous citer, nos identités sociales sont multiples. La cancel culture pour se défendre contre des figures puissantes, oui, mais ça ne suffit pas. On n'aura pas le temps de détailler là-dessus, mais on peut aller vous lire pour mieux comprendre ce passage-là. Tout au long de l'ouvrage, on trouve des ressources qui sont réunies dans des pages nommées pour écrire cette partie. J'ai lu, relu, lu ou parfois même expérimenté. C'est le cas lorsqu'il est question de l'usage des expériences psychédéliques et de jeunes. Je reviens aux sources écrites. On y croise, histoire de donner quelques noms, Tal Madesta, Ovidi, Frédéric Lordon, Paul B. Preciado, Virginie Despentes, Océan, Judith Butler ou encore Douce Dibondo. Est-ce qu'il y a un ou une auteurice parmi ceux-là ou un autre qui aurait nourri l'écriture de cet ouvrage plus que les autres, peut-être parce qu'il vous a secoué?
Oui, en plus c'est un texte et c'est un texte qui est qu'on peut trouver sur internet et qui est gratuit, donc c'est encore plus une référence accessible. Je pense qu'il a été traduit en français, j'imagine. Donc ça s'appelle, je connais que le mot anglais, donc Uses of the Erotic, donc les usages de l'érotique ou de l'érotisme de Audre Lorde. Et c'est un texte de 78, donc ça date, hein. Et c'est drôle, c'est un peu ce que je disais sur un peu l'effacement justement des théories politiques du désir. Moi j'ai l'impression que le désir, on l'a très fort cantonné aux études queer de la sexualité. Donc voilà, on parle de désir en termes d'identité de genre, d'abolition éventuellement du régime cis-hétérosexuel, mais jamais en tant justement que théorie politique globale en fait, universelle presque on pourrait dire. Et Audre Lorde pour moi elle fait ça. Donc dans ce texte de 78, elle raconte comment l'érotisme a été complètement dévoyé de sa forme, notamment sous le capitalisme via la pornographie. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Audre Lorde est aussi une fervente anti-porno, qui sont des positions que moi, je partage pas dans le livre et dans mes convictions. Et donc, dans ce texte, au-delà de la critique porno, qui est anecdotique en vérité dans le texte, elle explique comment l'érotisme est, par exemple, une force politique hyper puissante dans le contexte du féminisme noir et du lesbianisme noir, et comment, en fait, on peut pas du tout comprendre les mouvements politiques révolutionnaires afro-descendants sans comprendre la question du désir, et qui est une question décoloniale, en fait.
On est de retour en studio. Anne, t'en as pensé quoi de cet extrait de... Enfin, c'est quand même assez fou ce qu'elle raconte.
C'est la peste. Oui, elle manque aussi pour re-questionner la place des féministes blanches et occidentalo-centrées. Finalement, le patriarcat n'est qu'un, on va dire, qu'un des fils ou des filles de la mer, de l'océan, devrais-je dire, des nations.
Tu travailles dans la sphère politique ? Tu es très douée.
Je suis politique bénévole.
Tu devrais y penser, à la politique professionnelle.
Dans cet extrait, il y a une phrase moi qui m'a marquée. Elle dit, les personnes, donc Myriam Bahafou dit, les personnes qui ont été pénétrées, d'ailleurs douloureusement dans leur vie, ont plus de capacité à comprendre le monde. En gros, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là, Lucie? Tu t'as réussi
à... Ah, parce qu'en plus, il faut que j'explique. Non, mais c'est la double peine. La personne a écouté mon extrait et est partie fumer des clopes. Et en plus, il faut que je synthétise.
On n'a pas le droit de le dire, ça.
À l'extérieur du studio, bien évidemment.
Bien sûr.
Non, mais je vous invite à aller réécouter le podcast dans son intégralité. Mais vraiment, elle pose des questions super intéressantes aussi. Elle parle de l'ultra-féminité et comment elle a, on va dire, poussé plus loin le curseur de ce qu'on estime correct chez une femme, donc notamment dans la façon dont elle s'habille, et un peu comme toujours le retournement du stigmate à force de se faire traiter de pute. Bon, bah voilà, je vais m'habiller comme ce que vous considérez être une pute et je vais le porter comme quelque chose dont je suis fière.
Ça, c'est le ministère de Kat.
Les putes?
Non, on s'habille comme on veut.
On peut s'habiller dans
le
comme
ministère de je m'habille comme je veux.
T'étais
comme
où, Lucie Loip, quand Kat t'a parlé? Tu fumais une clope aussi?
Non, je ne fume presque plus.
Mais peut-être pour rebondir sur la question que tu posais, Nina, sur la question est-ce que le fait d'avoir été pénétré permet d'être plus apte à une forme de réflexion, oserais-je dire, de processus de déconstruction? Est-ce qu'en fait, c'est pas le même mécanisme qui a instruit le rapport des inégalités? C'est-à-dire, encore faut-il avoir été dominé au sens et point, enfin et eux ou peu importe, pour conscientiser aussi des problématiques plurifactorielles qui peuvent être celles en fait du rapport de domination. C'est-à-dire qu'il faut faire l'expérience de l'inégalité, l'expérience de la domination pour être aussi en capacité de le ressentir dans son corps, dans sa chair, et donc progressivement d'y mettre collectivement des mots.
Est-ce que c'est pas un peu triste de se dire que juste par enfin, je sais pas, la conscience, la parole, on peut pas comprendre que la personne en face, bah, en fait, elle vit des discriminations et que si soi-même on est juste bourré de privilèges, on n'a pas la capacité d'accéder à ce savoir. Ça je trouve ça triste, mais je comprends ce que tu dis.
Ça, c'est les bonnes alliées, c'est les bonnes blanches. C'est une autrice afro-descendante américaine qui le dit, j'ai oublié son nom, il va me revenir d'ici la fin de l'émission, qui parle des bonnes alliées blanches et qui en fait sont pleines de bons sentiments, qui disent oui, j'ai dû être assise dans ma vie, etc. et qui ne pourront jamais comprendre ce que c'est que d'être une femme noire. En tout cas, c'est le discours de certaines afro-féministes que moi j'entends. J'ai mis un certain temps à comprendre, mais voilà, c'est oui, je ne pourrais jamais comprendre.
Et peut-être Morgane, alors
j'ai juste retrouvé le nom Britt Bennett. Okay. Allez lire Britt Bennett.
D'accord.
Et pour peut-être clore cette discussion, merci encore Lucie pour cet extrait d'interview. On te retrouve dans Vers des Terres normalement le 20 mars prochain. Ou le mois d'après ?
Non, le 20 mars. C'est encore loin et le programme, il sera sans doute question des élections municipales.
Eh oui.
Ah bon ?
Eh ben, on espère pouvoir en parler.
Incontournable quand on parle d'écologie.
À ce moment-là. On va continuer à parler de l'année qui vient de s'écouler avec un mini-quiz qu'on doit écourter car on est carrément en retard. C'est Manon qui va commencer. Un quiz. Attends, il faut que je vous montre le lot. Où est passé le lot ? On a perdu le lot. Le lot ! À gagner ce soir.
Putain, c'est quelqu'un qui l'a oublié à Canal B, ça.
C'est une Rolex.
C'est un cadeau qu'on a fait à Canal B. Ce n'est pas une Rolex, c'est une montre à l'effigie de Radio Méga, une radio de la Ferrarock basée à Valence.
Ok, bon bah je
Est-ce
passe.
Est-ce qu'on peut estimer que c'est une montre qui a été oubliée au moment des transmusicales ?
Ouais.
Mais il y a plusieurs années. Elle est donc complètement perdue.
Plus d'un an, c'est bon, on est tranquille. Ouais. Les schlags à Canal B, quoi.
J'entends dans l'oreillette que la montre ne fonctionne pas, il est vrai. Mais il fallait le dire à la fin.
Non, mais une pile, ça se change et ça coûte très peu cher. Non,
mais personne ne va jouer.
Et ben Manon, puisque tu as l'air plus maligne que tout le monde, tu vas nous faire la première question du quiz.
Alors, première question. Je suis sûre que vous allez la trouver. Donc, c'est une phrase qui a été dite publiquement par un homme influent, donc soit il y a 20 ans ou alors il y a 20 jours. Une femme est faite pour mettre des enfants au monde avec un bassin large et le foot n'est pas fait pour les bassins larges.
20 jours.
Jean-Michel Aulas, non.
Alors déjà, on a 20 jours, ce qui est la bonne réponse.
Ouais, 20 jours, pour moi, c'est
bravo. C'était quoi la réponse ? Enfin, on doit trouver le 20 jours, 20 ans
c'est
ou...
comme les blind tests.
Exactement.
Ouais, en plus, elle a le nom, Morgane. Je lui donne la montre.
Moi, j'ai pensé... Non, mais je pense à un ancien footballeur, un Lacombe, mais je crois qu'il est mort. Donc, c'est pas Aulas.
Nelson Montfort.
Non.
On aurait aimé.
Ah, son acolyte affreux, là.
Candeloro.
Non, lui, il est Candeloro.
Je voulais mettre un truc de Candeloro de base, mais.
Non, mais c'est. Alors, c'est un ancien footballeur ?
Un ancien entraîneur d'Auxerre. L'AJ Auxerre.
Ah, mais c'est Giroud.
Exactement.
C'est Giroud.
N'est pas mort. N'est pas mort
encore. Non.
Il faut trouver le nom du mec ou le.
C'est bon, c'est trouvé.
Ah,
c'est
non, mais Giroud. Parce que tu as dit 20 jours, 20 ans.
Fallait trouver les deux.
Ah, ça sent la mauvaise joueuse.
Avec cas, on est sûr qu'il est mort.
Bon, et ben, du coup, j'ai l'impression que tout va se. Alors, il y a un demi-point pour Audrey, un demi-point pour Morgane. Il me semble. Manon,
oui,
c'est ta question, c'est ça qui décide.
Battez-vous pour cette montre qui ne fonctionne pas.
Alors, personne ne va gagner parce qu'on n'a plus qu'une question. Donc, on ne pourra jamais départager personne, à part si Morgane ou Audrey, vous avez la réponse.
Bien sûr. Ouais.
Alors, qui a dit ceci et dans quel contexte ?
Je vais vous dire où je déjeune. Je déjeune à la cantine de France Télévisions. J'étais encore ce midi.
Rachida Dati.
Anne ?
Adèle Vendrette ?
Non. C'est pas Rachida Dati, c'est pas Adèle Vendrette, mais je dirais que...
Mais j'entends rien avec l'effet robot, là.
Mais c'est plus proche.
Si, c'était il y a quelques jours.
Exactement.
Putain, c'est qui ? Je déjeune à la cantine de France Télévisions.
Élise Lucet.
Élise
Lucet qui l'a dit.
Ah,
Lucie !
Mais bien, son homonyme.
Dans quel contexte ?
On m'appelle parfois Élise Lucet.
Ah bah, c'est tellement la jumelle, c'est un truc de fou. Ah ouais, bah ouais. T'as gagné la montre, hein, Lucien.
Et Lucie, tu peux nous redire dans quel contexte
c'était ? Dans le contexte de la commission d'enquête sur le service public. Elle a été auditionnée avec d'autres journalistes de France Télévisions.
Trop de sous.
Ouais, elle était énervée.
Elle était avec un rapporteur, Charles Laloncle, c'est ça son nom ?
Le fameux, le triste. Qui
fait parler de lui.
Qui ne remplit pas tout à fait les exigences qu'implique sa fonction, nous le dirons comme ça.
Mais ça demande, enfin, faudrait qu'on en fasse une émission spéciale parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ces gars, sur ces commissions aussi.
Ouais.
Je suis un peu fan des commissions d'enquête parlementaire, c'est tellement
Chacun
intéressant.
Chacun sa passion.
Mais lui, il m'a gâché mon plaisir depuis quelques semaines. Je peux plus regarder les commissions d'enquête.
Laloncle, ouais, moi, c'est pas ma passion. Hein. Ouais. C'est moi, je le vois, mieux je me porte.
Ça rime avec furoncle.
Eh bien, je pense que la montre est toujours en jeu et qu'on pourra peut-être la donner pendant les tu préfères. On verra comment vous débrouiller. En tout cas, on est toujours en retard. Okay. C'est tout à fait ça. Et ben d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est le moment d'une pause musicale. N'est-ce pas, Julie ? Est-ce que tu veux nous dire ce qu'on va écouter ? Elle veut pas nous dire ce qu'on va écouter, mais elle va mettre la chanson.
Quelle rebelle.
Got big dreams and a big heart. One cute chick and a cool car. Make it electric, don't need to go fast. If she pricey, then we won't last. Got big dreams and a big heart. One cute chick and a cool car. Make it electric, don't need to go fast. If she pricey, then we won't last, last, last. Je joue avec le refrain, mais moi je suis plutôt casé. Tant qu'à la fin du mois, y'a de quoi me payer loyer. J'ai une belle go avec qui ça fait des années. Que c'est carré, ouais c'est carré. I'm just too big, yeah, they fuck you up. First I go too big, don't know who to trust. I'm not there yet, but I won't give up. No, 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 I can't give up. Big dreams and a big heart. One cute chick and a cool car. Make it electric, don't need to go fast. If she pricey, then we won't last. Got big dreams and a big heart. One cute chick and a cool car. Make it electric, don't need to go fast. If she pricey, then we won't last, last, last.
Quoi, Julie?
Eh ben, je vous dirai pas. Eh ben, non, je rigole. Du coup, c'était Big Dreams de Maddie Street.
Morgan Stock, il a choisi. Tu peux me dire pourquoi?
Ouais, j'avais choisi ça. Et en plus, ça résonne avec la chronique de Kat parce que Maddie Street et Yael a fait un son pour dénoncer un programmateur nantais qui disait « Ah, ben, j'aimerais bien programmer des filles. Il y en a pas. » Et voilà, elle a fait un son pour dénoncer ça. Et Big Dreams, c'est un de ses meilleurs sons. Et il y a une playlist sur Deezer avec toutes les artistes féminines qu'elle a sélectionnées, trouvées. Voilà.
On va changer un petit peu le fil de l'émission et on va faire une mini lecture avec Anne. Maintenant, ça te dit?
Bah, on peut.
Allez,
on peut,
tu nous donnes le contexte rapido et on t'écoute.
Le contexte, c'est un court extrait d'un livre relativement médiatisé en ce moment, donc qui s'intitule Pas tous les hommes quand même. Donc sur le fameux hashtag Not All Men, une mise au point salutaire par Jules Lafoyce, édité aux éditions de La Meute. Et voici le court extrait que je vous propose sur la fin de ce court ouvrage d'une centaine de pages. Dire hashtag not all men, c'est affirmer, se mettre en surplomb, imposer une certitude, empêcher le dialogue. Dans une logique patriarcale, être un homme, c'est pouvoir. Et c'est aussi savoir. Si on veut vraiment en finir avec la domination masculine, pour tout ce qu'elle a de dangereux, pour tout ce qu'elle a de toxique, c'est à cette posture fondamentale qu'il faut s'attaquer. Ou alors, c'est qu'elle nous plaît. Si elle nous écœure autant qu'on aime le dire, si on est si attaché à l'égalité entre les femmes et les hommes, si on y accroche la preuve de notre ouverture, de notre intelligence, de notre modernité, inversons le paradigme. Soyons prêts à faire la révolution au sens le plus littéral du terme. Penser contre soi-même, se mettre cul par-dessus tête, apprendre à poser des questions. Accepter le doute, se méfier des certitudes. Accepter de se décentrer et d'observer le monde autour. Accepter d'apprendre, apprendre à entendre et, de temps en temps, savoir aussi se taire. Écouter, accueillir, accepter d'être ébranlé. Elles ont survécu au viol, elles ont le courage d'en parler. On devrait pouvoir survivre à ce qu'elles nous disent. Et ce qui devrait nous choquer, ce n'est pas celles qui parlent, c'est ce dont elle nous parle. Dire hashtag not all men, c'est aussi se sentir visé. Alors, quitte à vivre les choses personnellement, on pourrait prendre fait et cause pour elle. Se mettre debout, se dresser, s'insurger avec elle pour que les violences cessent. Il y a ici une carte à jouer, celle d'une virilité nouvelle, dont la puissance ne servirait plus à détruire l'autre moitié de l'humanité, mais à construire au contraire et ensemble le monde d'après. La perspective est belle, l'horizon pas si loin, à condition d'avoir le courage de se regarder en face.
Est-ce qu'il y a des réactions à ça ?
Je lève le doigt. Peut-être dire que Julia Foyce, la journaliste qui a écrit ce livre, elle a longtemps fait de la radio à France Inter avant d'être évincée à la dernière rentrée. Elle avait une émission féministe qui était super. Et non, la fin de l'extrait sur la question des nouvelles virilités, ou peut-être qu'on devrait dire masculinité à imaginer, ça me fait penser à un podcast qui vient de sortir du côté de Louis Média dans la série Injustice. Est-il possible de sortir du masculinisme ? C'est une série en 3 épisodes que j'ai écoutée hier. Mais formidable, voilà.
Tout à propos. Grands esprits, hein.
Et c'est chouette parce que c'est fait par 2 créateurs radio, 2 hommes qui s'identifient comme hommes, et où on entend des voix notamment d'un ancien incel qui témoigne et qui raconte de la façon dont il est un peu sorti de l'emprise que ses contenus avaient sur lui. Et donc, en effet, voilà, je vous conseille l'écoute de ce podcast-là qui vient de sortir chez Louis Média et qui est chouette.
Est-ce que vous avez des gens dans votre entourage proche qui ont pu être impactés ou pris un peu sous l'emprise de ce genre de contenu, comme tu le disais, Lucie ?
Des incels repentis, ouais. Des MGTOW repentis.
Je pense que les incels, c'est la partie un peu émergée.
De l'iceberg,
ouais,
ou immerger, émerger de l'iceberg. J'ai des petits problèmes de spatialisation, et que du coup, moi, ma réponse c'est non, mais qu'en fait, les masculinismes c'est quelque chose de beaucoup plus diffus et que pour le coup, on peut retrouver chez des gens de notre entourage, voire même parfois en soi, même si on est une femme.
Ouais, le not all men, c'est même chez nos proches, quoi. Et c'est, ça peut être très douloureux, quoi, de sa perte.
C'est avant tout ça qu'elle pose. Julia Foyce, elle nous invite plutôt, et elle les invite, comme elle nous invite aussi, à regarder plutôt la question des hommes ordinaires, de ceux qui n'ont rien fait, et qui pour autant peuvent se sentir visés, attaqués. Et ça me fait penser aussi à une partie de réflexion qui commence à émaner aussi sur les réseaux sociaux, avec ce qu'on appelle communément aujourd'hui la crise massive de la maturité émotionnelle masculine. C'est plutôt pour essayer de commencer à aborder le fait que voilà, s'il y a à la fois une, on va dire un ressac réactionnaire masculiniste face à un vent plus et une trame de fond plus progressiste sur un ensemble de questions, dont le féminisme, mais pas que. S'il y a aussi une forme de résistance, un plafond de verre, on va dire plus transversal, peut-être plus normé, accepté socialement. C'est aussi de se dire que c'est peut-être aussi une façon de se protéger d'une certaine forme de réflexion et que ça appelle aussi à questionner la masculinité dans ce qu'elle a, dans ses lacunes éducatives. Et encore une fois, je ne pointe pas là les hommes, je pointe un système et donc un système éducatif qui enjoint à, malheureusement culturellement aussi, à se dire voilà, on se sent aujourd'hui en tant qu'homme, on va se sentir attaqué par un ensemble de sujets, parce qu'on se dit que potentiellement, on peut être mis dans le même sac que ces incels, que ces violeurs, que ces agresseurs, que ces harceleurs. Et en fait, on pense d'abord à soi, on recentre et on déplace le sujet sur soi, plutôt que de s'offusquer contre l'injustice qu'on constate.
Merci beaucoup, Anne, pour cette lecture. Là, c'est l'heure des « Tu préfères » de l'enfer.
Oh là là, jingle travaillé, hein.
Avec la voix de Julie, d'ailleurs, je précise.
Ah ouais, jingle.
Alors, est-ce que vous connaissez le jeu Tu préfères ? Bon, c'est pas vraiment un jeu, donc évidemment, vous connaissez. Mais on va vous proposer un Tu préfères qui est peut-être un dilemme de féministe et on va voir ce que vous en pensez. Peut-être arriverez-vous à une décision collective sur ce que vous préférez. Je vais commencer, puis après, je donnerai la parole à Julie et puis après, la parole à Morgane. Allez, rapidement. Est-ce que tu préfères ne plus jamais entendre ou voir quoi que ce soit de sexiste, plus jamais un propos sexiste ? Ou que Trump disparaisse à tout jamais et que tout le monde fasse comme s'il n'avait jamais existé.
La une.
Ne plus jamais voir un
Non, mais il va mourir. Enfin, tu vois, il a 79 ans.
Oui, mais que du coup, on fait comme s'il n'avait jamais existé.
Il y en
existé.
A d'autres.
En fait, ça va être très rapide. Trump disparaît. Ça ne règle pas tout le problème à l'échelle mondiale. Alors que ta première proposition, oui. Si vraiment on peut l'obtenir, C'est quand même pas mal.
Je vote pour Lucette.
Moi aussi. Élise Lucette.
Ouais. Mais personne n'a envie de voir Trump disparaître maintenant.
Si,
là.
Si, tout à fait. Si, si, les deux. Les deux. Les deux.
Non, mais on n'a pas le droit aux deux.
Faut oui, et bah, d'abord, on écoute Lucie et après, de toute façon, Trump, il va mourir.
Mais je te rejoins, c'est un Cerbère.
J'ai pas dit ça, mais c'est bien formulé.
Et ben, on passe à la deuxième. C'était rapide. Julie.
Alors, vous préférez la nomination de Pierre Ménez au ministère de l'égalité des genres ou vous faire arracher un à un chacun de vos ongles et qu'après on mette du jus de citron hyper acide sur chacune de vos plaies.
Vas-y, balance le citron.
Numéro 2.
Balance le citron. Complètement.
Ah ouais, non. Vous êtes hyper forte, hein, quand même.
Moi, je sais pas, peut-être que je vais hurler à la mort. Mais...
C'est 10 doigts.
C'est douloureux.
20 contre les pieds.
10 doigts contre Pierre Ménez. Pierre Ménez. Allez Morgane.
Alors qu'un seul suffit.
Ouais, alors celle-là, elle est vraie. Enfin, en tout cas, moi, on me l'a sortie, on me l'a dite, pas plus tard que cette semaine. Mon fils de 17 ans, vous allez m'aider à répondre. Tu préfères que je devienne mascu ou militant RN?
Mais c'est pas la même chose.
Est-ce qu'il y a pas un
c'est
pont
un peu pareil. Hein.
C'est ce que j'ai répondu. Bah, l'un dans l'autre, c'est les mêmes.
Fais bien voilà. Ce que tu veux, c'est ce que tu lui as dit. Eh ben, cette rubrique est finie.
Voilà.
C'était super. Et Audrey,
c'était passionnant.
Tu vas garder le micro, si, si. Parce que tu es une habituée des plateaux et émissions spéciales de Canal B.
Oui.
Tu étais là pour les transmusicales il y a à peine quelques mois.
Tout à fait.
Et les bars en trans également dans ce studio.
Oui.
Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Alors là, j'ai choisi de vous parler d'une femme, on n'est pas dans 2025, hein, qui a jamais demandé la permission, comme on aime, une artiste libre, abrasive, brillante. Il s'agit de Vive Albertine. Alors si son nom ne vous dit rien, son influence, elle est immense. Dans les années 70, en pleine explosion punk à Londres, elle est guitariste du groupe The Slits, un groupe 100% féministe qui bouscule tout, le son, l'image, les codes. À une époque où le rock est dominé par les hommes, The Slits monte sur scène sans chercher à plaire. Elle joue fort, faux parfois, mais surtout librement et ça change tout. Vive Albertine, c'est la scène punk britannique, les squats, les concerts chaotiques, l'amitié avec Sid Vicious ou encore la proximité avec l'univers des Sex Pistols, The Clash. Mais derrière l'énergie brute, il y a déjà une réflexion sur la place des femmes dans la musique et dans la société. Et puis vient son livre au titre qui claque comme un slogan « Closest, 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 music, 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 boys, boys, boys ». Qu'on a traduit en français « De fringues, de musique et de mecs » qui n'attire pas beaucoup. Ce n'est pas une autobiographie nostalgique, c'est un récit frontal. Vivi raconte son adolescence dans le monde des années 60-70, son obsession pour le style parce que les fringues, c'est une armure. La musique comme échappatoire et les garçons, souvent brillants, souvent toxique. Elle parle de désir, de rivalité, d'ambition féminine dans un monde qui préfère les femmes discrètes. Elle raconte aussi l'après-punk, la maladie, le divorce, la maternité tardive, la difficulté de créer quand on n'a plus 20 ans. Et surtout, elle pose une question essentielle, comment rester soi-même quand tout vous pousse à vous conformer. Son écriture, elle est directe, elle est sans glamour, inutile, elle démonte le mythe romantique du rock. Non, ce n'est pas toujours fun, oui, c'est souvent dur, et pour les femmes encore plus. Alors si vous aimez les récits de musique, les parcours de femmes qui refusent de rentrer dans les cases, ou simplement les histoires vraies, rugueuses et inspirantes, de fringues, de musique et de mecs, c'est un livre à ouvrir. J'ai une deuxième femme à vous faire rencontrer, c'est Sister Rosetta Tharpe. Alors c'est un peu la mère cachée du rock'n'roll dans les années 1930 et 40. Cette guitariste noire américaine mélange gospel, énergie électrique et riff puissant. Bien avant que des figures comme Elvis Presley ou Chuck Berry popularisent le genre. Mais son histoire est aussi profondément liée au féminisme. À une époque où la scène musicale est dominée par les hommes, elle impose sa présence, sa virtuosité et sa liberté artistique. Elle joue de la guitare électrique avec une audace jugée masculine. Longtemps invisibilisée par l'office du rock'n'roll, la redécouverte de Rosetta Tharpe rappelle une chose essentielle, les femmes ont toujours façonné les révolutions culturelles. J'essaie d'y aller plus vite, on va écouter Shout Sister Shout. Shout Sister Shout, ça exprime l'affirmation et la liberté d'une femme, l'énergie, la puissance féminine d'une femme, l'émancipation. On considère Shout Sister Shout comme un des premiers sons proches du rock parce que Sister Rosetta Tharpe, qu'on va écouter, utilise des éléments qui deviendront plus tard la base du rock'n'roll. Je parle tellement vite que je ne sais plus, je suis pressée. En tout cas, on va écouter une guitare électrique agressive, un rythme rapide entraînant, une performance intense expressive et un mélange des styles. En gros, avant même que le mot rock soit utilisé, elle en jouait déjà l'esprit. C'est pour ça qu'on l'appelle souvent la marraine du rock'n'roll, Sister Rosetta Tharpe.
A reason why a doctor gives a patient a pill. A reason to dance, a reason to sing. But there ain't no reason why a band can't swing.
I can understand the birds and I can understand the bees. Sister, I can even understand why a rat eats cheese.
I can understand my dog.
And I can understand your cat.
Well, fill me full of rhythm. Can you understand that?
I got you covered, sister.
Sister, shout.
Hallelujah.
Shout. Sister, shout.
Hallelujah.
Shout. Sister, shout.
Hallelujah.
Tell the whole world what it's all about.
I'm gonna shout.
Audrey, est-ce que tu voudrais nous redire vite Shout Sister Shout parce que c'est hyper dur à dire.
Shout Sister Shout de Sister Rosetta Tharpe.
Ça vous a donné envie d'écouter toutes les autres autour de la table ?
Carrément, moi je me suis même dit pourquoi on sortirait pas un album comme ça en 2026 en fait, avec des sons comme ça.
Pourquoi nous, vraiment nous ?
Pourquoi pas ?
Pourquoi, ouais, nous, pourquoi on ferait pas un groupe en fait ?
Allez, vas-y, on se lance demain.
Allez, on se lance demain.
Attends, on a des gens, des filles à Canal B qui font du son. Hein. Lucie Loipre, à mon extrême gauche, sort dans quelques jours, dans quelques temps, un son.
Ah ouais ?
Moi j'ai une chroniqueuse qui vient de sortir un son, n'est-ce pas Manon ? Hein, t'as kiffé. Voilà, elle l'a diffusé.
Ouais, Iris 2000, on toujours dans les
on avait
pensez pour Iris 2000. Ouais. Pensez
voilà.
pour
aussi, Iris 2000. Iris 2000, on peut sortir un truc, un EP.
On peut, on y va, on le fait.
Allez, on le fait.
Crie, ma sœur, crie. On l'appellera comme ça, le morceau.
Je viens de comprendre, ça a pris du temps.
Chaque... parce que t'es trop bilingue, ouais. Nina.
J'ai quelques
Grita, elle se crie, ma sœur crie. C'est vrai que c'est tout de suite...
Ça fait un peu peur. Bon alors, on va arrêter de dire des conneries et on va passer à la dernière chronique de cette émission avec Sabrina. Sabrina qui représente, est-ce que je peux dire ça, le crew de l'émission Kérosène.
Ouais, enfin, reprendre, je me représente moi-même surtout.
Et ben, voilà. et ben pardon, tu te représentes toi-même. Allez, je vais partir. Moi, je vais vous laisser. Et puis, je vais vous laisser finir.
Non, par contre, il faut quand même savoir qu'il y a Hélène, hein, mais oui. Quand même, dans ton crew, c'est toi qui fais la technique. Et ça, c'est tout à ton honneur parce qu'il n'y a pas beaucoup de meufs qui font la technique à Canal B.
À Canal B.
Et si, quand même, Sab, il faut le dire.
Oui, ouais, bah, quand même, autour de la table, il y en a déjà. Il y a Sabrina.
Il n'y a pas beaucoup de meufs à Canal B, peut-être.
Déjà.
C'est peut-être ça.
Ouais. Ah, peut-être le nom du problème. Ouais. Venez, venez, auditrice.
Moi, je fais tout. La programmation musicale, la technique.
Ouais, mais toi, t'es payée.
L'argument naze.
Eh ben, en fait, on va laisser la parole à Sabrina. Voilà.
Ouais, bah moi, du coup, j'avais choisi le ministère de l'aventure parce que bah moi, je voulais parler d'une kayakiste. Ah, mais justement, mes co-présentateurs vont détester.
Parfait.
Et c'est une fille qui s'appelle Noria Newman. Et en décembre 2025, elle a été nommée pour la quatrième fois la kayakiste féminine de l'année. Et donc, Noria, elle est née en attendez, en 1991. Elle fait 1m63, elle a une voix fluette. Et en fait, elle tue tout le monde. Elle a été donc nommée femme de l'année en kayak pour la 4e fois. Elle a remporté le championnat de kayak enduro. Elle a été 5 fois championne de kayak extrême. Elle a aussi été nominée en freestyle. Et donc, c'est un petit gabarit. Elle a commencé par faire des compètes toutes petites, tout ça. Elle a voulu monter dans un kayak à 5 ans. Ses parents lui ont dit, mais tu sais pas nager. Elle a dit, bon, ok, je vais apprendre à nager. Puis ben, après, je suis revenue dans le kayak. Et donc, elle a fait après tout le circuit, les slaloms, tout ça. Et puis, en fait, elle s'ennuyait. Elle était là, c'est pas sympa. On est dans des bassins en béton et tout. Elle préférait partir avec ses potes en expédition partout dans le monde. Et elle est complètement partie là-dedans. En même temps, elle faisait des études. Elle était à l'IEP. Elle avait un rythme de fou. Après, elle a appris à faire des documentaires pour faire ses images elle-même. Et elle produit des films de toutes ses expéditions. Et par exemple, en 2019, elle est partie en Patagonie avec Ben Stooksberry et Eric Boomer, qui sont des pointures dans la matière. Et elle dit, ah ouais, mais non, c'était trop dur, moi je voulais arrêter et tout. Puis Ben Stooksberry, il dit, ah oui, elle dit ça, mais en fait, c'est elle qui ouvrait tout. Puis elle a une super technique, elle est impressionnante. Elle est la première femme qui a pris une chute d'eau de plus de 30 mètres, toute seule. Elle a fait aussi du kayak toute seule sur des rivières dans le Zanskar et tout. À un moment, elle tombe, elle court après son kayak, elle nage après, elle a peur et tout. Elle dit que plus elle en fait, plus elle a peur, mais que c'est salutaire parce que ça apprend à mettre des limites. Et en 2022, il y a eu un film sur une biographie sur elle qui est sortie, qui est super bien. Ça s'appelle Wild Waters. Et on peut le voir sur Red Bull gratuitement. Elle a aussi fait des descentes avec deux amis sur l'Indus. Et on a sorti trois petits films qui s'appellent Big Water Theory, où elle explique un petit peu justement la ligne, tout ça. Et voilà, donc Nouria, c'est quelqu'un d'impressionnant, tout simplement. Et c'est un modèle à suivre, je pense.
Déjà, bravo, non ? Ouais, elle est incroyable, cette chronique.
Est-ce qu'on cite deux autres boissons énergisantes pour le fun ?
Vas-y.
Mais je suis nulle en boissons énergisantes.
Énergisante. Monster.
Monster.
Et le dernier, Julie ?
Bah, Red Bull.
Il en faut un autre.
On peut partir sur du. Moi, j'ai kombucha, mais allez, kombucha, kombucha, ça n'a rien à voir.
Mais moi, j'ai énormément de questions, Sabrina. Pourtant, on n'aura pas le temps de tout y répondre. Mais alors, c'est quoi du freestyle de kayak ? Premièrement, parce que j'arrive pas à imaginer. C'est quoi le Zanskar ? Je pense que j'ai des lacunes en géographie. Et il y a un mec qui s'appelle Eric Boomer, et ça me fait beaucoup rire. En plus, c'est un mec très drôle.
Excellent.
On va. Vas-y.
Et qui a une copine qui est excellente et qui est également très reconnue dans le milieu des expéditions dans le grand froid. Mais donc, ta première question, le kayak freestyle, c'est faire des figures avec un kayak, c'est-à-dire faire des sauts, des loops, etc. Le plus de figures possible dans les championnats.
Mais tu portes ton kayak et
Moi, j'avais peut-être une petite question, Sabrina, que évidemment, comme je te connais quand même un petit peu, tu n'oseras jamais dire et tu es un exemple pour moi. C'est ton exemple pour toi, cette personne-là, parce qu'il faut savoir que Sabrina fait la même chose.
Oh, pas la même
Sabrina
chose.
Sabrina part quand même partout. Où elle peut faire du kayak toute seule et tu m'impressionnes énormément et ça tu le dis pas, bah c'est normal.
J'allais demander si le sport avait une place particulière dans ta vie.
Oui, je suis kayakiste également.
Extrême.
Non, pas extrême.
Si tu pars quand même dans des trucs où on n'irait pas.
Hein. Ah les extrêmes.
Oui, bon.
Bah, déjà dans un kayak, moi. J'y vais.
Déjà. Non mais vraiment dans le froid, tout ça.
Oui, je fais aussi des expéditions à pied, enfin expéditions non, de la rando toute seule à pied dans le Grand Nord.
Très très.
C'est quoi, alors,
c'est quoi le dernier truc et après tu vas lancer ton son, Sabrina. C'est quoi la dernière rando ou le dernier truc en kayak? Où est-ce que t'es allée la dernière fois pour nous donner un peu envie?
Bon, j'en fais beaucoup en Bretagne toute l'année, mais je suis allée toute seule dans le sud-ouest du Groenland, où là je me suis fait 15 jours toute seule en kayak. Non.
Facile, quoi.
Et elle dit ça, qu'elle n'est pas une kayakiste.
Elle est humble.
Au Groenland. Comment ? Au Groenland, ouais.
Tu cherches, toi, non ?
Non, mais le plus dur, ça a été de louer un kayak, de trouver quelqu'un qui acceptait de m'en louer. Hein.
Pauvre de toi.
Bon, je pense qu'il faut qu'on ouvre un sujet kayak après cette émission.
On a une héroïne.
Sabrina, qu'est-ce qu'on écoute ?
On va écouter Skull Hazard. Alors, c'est pas récent. Hein. Ce que je vais passer, ça date de 2009. Mais il y a une bassiste qui, pour moi, est aussi un modèle dans la musique. Alors, elle a toujours peur devant les concerts. Donc, en fait, elle se boit une bouteille de vodka avant. Mais alors, après,
Ça a l'air d'un monstre. Elle tord bien d'être un regard fixe, brillant.
L'abus d'alcool.
Elle envoie des sons.
Et très mauvais pour la santé.
Et elle est
à consommer avec modération.
Bien sûr.
Bah voilà, hein. C'est la fin. J'ai envie de vous dire bonne année de lutte féministe. On a parlé écoféminisme, on a parlé rock, on a parlé débat législatif en cours, on a parlé scandales politiques sociétaux, on a parlé éducation à la vie affective relationnelle et...
Kayak extrême
pas, on a parlé de kayak
extrême.
Je pensais pas qu'on allait parler de kayak extrême ce soir. Merci Sabrina
et
pour ça.
Et du Groenland.
Et du Groenland. Alors en 2026, il y aura encore tout un tas de luttes sociétales et féministes à venir. La survie des associations, notamment les associations féministes comme le planning familial, qui sont en grand danger. La question est-ce que les pouvoirs publics vont avoir un peut-être sursaut de conscience ou vont-ils continuer à étouffer nos associations ou les achever purement et simplement? Il faudra aussi en 2026 parler des luttes au-delà de nos frontières. Je pense à l'Iran, à la République démocratique du Congo. Bref, en 2026, à l'Afghanistan, à plein d'autres pays probablement. En 2026, plus qu'une autre année ou pas, ça je n'arrive pas vraiment à le dire, on aura du pain sur la planche. Alors, est-ce qu'on a célébré ce soir, j'ai l'impression? Est-ce qu'on a peut-être badé aussi par certains moments? Oui, peut-être. Mais au moins, on a pris le temps de se retrouver entre nous, c'est déjà pas mal. Merci à toutes les personnes autour de cette table. Kat, Morgane, Lucie, Audrey, Anne, Sabrina, Manon, Julie.
Merci Nina.
Merci, merci, merci à vous. Merci. Alors, vous avez promis qu'on allait se quitter avec un dernier tour de table. Je vous ai demandé de réfléchir à votre bonne résolution féministe ou vos souhaits pour l'année féministe à venir.
Elle est dans l'ordre. Bien. Ah bah non, pas dans l'ordre.
Non, juste ben, qu'en fait, on en refasse des comme ça. Qu'il y en ait deux, trois dans l'année par rapport à nos emplois du temps. Et ouais, voilà, juste ça.
Tu t'es tapé le cœur en disant ça.
Non, parce
ça.
Qu'elle m'a envoyé un cœur, Anne. Alors j'ai reçu son cœur, j'ai montré que je le recevais dans le mien.
Et moi, j'allais justement répondre le contraire en mode j'espère.
La flemme.
Moi, c'est bon, c'est la dernière, ça m'a gavé, c'était relou cette émission.
J'espère qu'un jour, on en aura plus besoin de faire ce genre d'émission. C'est ça que je voulais dire.
Ouais, mais en même temps, ça fait du bien de discuter entre nous, non?
C'est vrai, évidemment. Et non, et là, bien sûr, plein de une de groupes de meufs. Dans la presse rock, je veux en voir en 2026. Réveillez-vous les journalistes rockers, réveillez-vous.
2 micro-résolutions. Il faut se dire que les luttes, ça se joue sur le temps long et pas à l'échelle de notre vie, parce que des fois, c'est déprimant. Et la deuxième résolution, mais qui dépasse les luttes féministes, moi, en ce moment, c'est d'éteindre mon téléphone plusieurs heures par jour, parce que je trouve le contexte hyper anxiogène. Moi, ça m'atteint personnellement, tout ce qui se passe en ce moment autour de nous. Je sais pas comment ce sera au moment de la diffusion de cette émission. Mais donc, je crois qu'il faut parfois éteindre le téléphone et se concentrer sur les médias indépendants, et notamment sur les réseaux, sur les radios associatives.
Allez, on continue le tour.
Je suis d'accord avec Lucie. Après, c'est pas facile de pouvoir écouter la radio toujours. Mais par contre, restreindre les réseaux sociaux, effectivement. Moi, personnellement, j'en ai plus qu'un seul. Et je voulais juste faire un truc qui me tient à cœur. En disant encore une fois, tous les samedis, il y a des rassemblements en France et notamment à Rennes. Hein, mais aujourd'hui, l'Afghanistan vient de voter la loi contre la violence faite aux femmes. Si ça se voit pas, il y aura pas de jugement pour les hommes. Et du coup, voilà, encore une fois, on vit quand même dans un monde absurde. Anne.
Alors il y aurait tant à dire, je sais pas si c'est peut-être un souhait avant une résolution, pour rebondir sur ce que vous venez d'évoquer à l'instant, c'est aussi le souhait qu'on repriorise la question de la recherche sur la santé des femmes, qui reste quand même un pan très oublié, pas que à l'endroit justement du cycle ou de la péri ou de la ménopause. Et après, en résolution, j'ai envie de dire, alors on n'y voyait absolument aucune référence religieuse de ma part, mais je dirais peut-être que la résolution, c'est malheureusement de continuer à attendre l'autre joue, avec de l'humour, avec du rire, avec de la joie, avec de la gentillesse, avec parfois de la colère, de la maladresse, d'essayer de, comment dire, d'être... autant aussi doux avec les autres qu'avec soi-même. Je ne l'ai pas toujours été et ça fait partie de mes résolutions. C'est par ces biais-là qu'on peut construire des temps comme celui qu'on est en train de vivre ici, c'est-à-dire davantage de solidarité interpersonnelle. Et qui dit interconnaissance dit progressisme.
Alléluia.
Moi, mon souhait, ça serait que les femmes, déjà, arrêtent de se tirer dans les pattes. Celles qui soutiennent les hommes, celles qui aident tous ces tueurs, ces violeurs, etc., ou qui leur trouvent des excuses, qu'elles arrêtent, qu'elles soutiennent les autres femmes, qu'elles les croient, et qu'ensemble, on est plus fortes et qu'on puisse mieux se défendre et encourager celles qui n'osent pas, forcément. Et moi, c'est tout le temps mon truc, c'est essayer d'encourager celles dont je vois qu'elles n'osent pas, qu'elles se sentent pas légitimes, essayer de leur dire, mais si tu l'es, il faut que tu prennes le truc que tu oses. Et voilà, essayer de toutes de s'appuyer.
Ça veut dire que si on veut venir faire du kayak avec toi, on peut ?
Ouais. Nina était merci sur Airbnb en train de chercher une loque là.
Pour moi, du coup, ce serait mettre en avant plus les livres féministes, des podcasts féministes. Et j'ai une résolution cette année, c'était de ne rien acheter. Et du coup, ça m'a pas du tout donné envie de ne rien acheter déjà le livre. voilà.
Et ouais, mais il y a achat et achat.
Oui, mais c'est pas grave, j'en emprunterai et plein et je demanderai. Je piquerai tous les livres qu'il faut. Voilà. Moi, ma résolution, c'est d'être plus énervée encore. J'aime bien m'énerver. On m'a toujours dit que je m'énervais trop, que j'étais toujours trop sérieuse, trop énervée. Non, je vais continuer. En 2026, soyez prêtes.
Et moi, ma résolution, c'est peut-être un peu plan-plan, mais ça fait peut-être aussi un peu écho à cette émission. Mais c'est de faire vivre la sororité, quoi, parce que finalement, je trouve que c'est un peu là que on trouve la force de continuer de lutter dans un monde un peu pas foufou, quoi, finalement.
Et Julie, c'est toi qui vas avoir le plaisir de fermer cette émission.
Oui, effectivement. Et donc, face à tout ce qu'on se prend dans la gueule en tant que minorité de genre, on aimerait bien que tout ça, ce soit une simulation. Et justement, c'est le nom du son de Bouche Carrée qui vient clôturer cette émission de la nouvelle année féministe.
Merci à tous.
Merci. Merci. Salut.
Au revoir.
L'homophobie, la transphobie, il n'existe pas.